Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bienvenue au Balado Urbania.
Bonjour, je suis Jean Bourbeau, journaliste chez Urbania, et je suis accompagné aujourd'hui de Jules Falardeau, documentariste, réalisateur, essayiste et même acteur, ayant tenu un rôle majeur dans le long-métrage Octobre, réalisé par son père, le regretté Pierre Falardeau. Jules, bonjour.
Bonjour.
Te rappelles-tu ta ligne dans Octobre?
Ouais, attends. Il y a une Ford Bleue avec deux messieurs dedans. Un qui fait semblant de dormir, puis un qui fait semblant de lire le journal.
Yes. Parfait!
Oh, tu m'as pris par surprise.
Écoute, j'ai fait de mes recherches. Jules signe la réalisation du dernier micromag Urbania commémorant les 30 ans du temps des bouffons. Court-métrage de 15 minutes ayant connu un parcours aussi singulier que son contenu et est devenu aujourd'hui, à juste titre à mon avis, une œuvre culte dans le paysage cinématographique québécois. Pour quelqu'un qui n'a jamais vu ni entendu parler du film, comment décrirais-tu en tes mots le cours de ton père ou plutôt de tes parents parce que c'est ta mère, Manon le Riche, qui tenait la caméra?
Non, maman ne tenait pas la caméra.
OK.
Maman, elle était au tournage, elle a négocié pour avoir l'autorisation de tourner au Beaver Club. Elle a un rôle périphérique, mais elle était là tout le long, mais elle n'est pas...
OK, c'est Pierre qui filmait?
Non, il y avait une équipe de gens que l'ONF lui avait prêté, en fait, parce qu'ils avaient... Comment ça fonctionnait à cette époque-là, l'ONF, des fois, ils te donnaient... OK, on te prête une équipe, va tourner ton truc, puis là, après ça, c'est en revenant, quand il était question de mettre le commentaire, que l'ONF s'est dédouané
c'est ça,
de...
Ouais.
Ouais, c'est ça. Fait que la question, c'est comment je le présenterais? Ben, c'est un court-métrage... Un brûlot de 15 minutes qui dénonce la haute bourgeoisie canadienne-anglaise au Québec. C'est un... En fait, le film est culte. Mais c'est sûr, pour moi, j'ai pas une grande distance objective, là, mais c'est pas vraiment important. C'est le commentaire que mon père a lu dessus, qui est très incendiaire. Avec le fait qu'on voit pas souvent les gens de la haute bourgeoisie comme ça dans ces atours-là en train de fêter, fait que c'est un film qui est culte, puis c'est aussi un des, probablement, mais ça c'est moi qui le dis, là, mais un des films québécois les plus subversifs de l'histoire.
Je suis d'accord avec toi, parce que la première fois que moi j'ai vu Le Temps des bouffons, c'était au cégep, en cinéma au Collège Hansik. Le père d'un collègue de classe lui avait donné un CD, même pas un DVD, un CD, puis on l'avait mis dans une salle de montage, c'était un fichier QuickTime qu'on avait mis sur notre ordinateur, puis on était peut-être 5-6 là, entassés dans une petite salle de montage, puis on l'avait regardé, c'était toute notre première fois, on l'avait regardé en silence, puis quand il était fini, on l'avait remis au début, puis on l'avait regardé une autre fois, parce qu'on n'avait jamais vu quelque chose d'aussi...
Ouais.
Espèce de violent et jubilatoire
ouais,
à la
ouais.
fois.
Mais c'est comme frontal aussi. Hein. Il n'y a pas de métaphore pour parler de quelque chose par la bande. C'est vraiment rentre dedans. Mm-hmm.
Puis on apprend dans ton reportage que pour ta mère, c'est une des œuvres préférées que ton père a réalisées.
Je te dirais que moi aussi.
Toi aussi,
ouais,
ça j'allais
pour
dire.
Les mêmes raisons.
Pour toi, dans la filmographie familiale, ça se situe où Le Temps des bouffons?
Tu veux dire en ordre de...
Ben, pas nécessairement en ordre, mais...
Non, moi, je suis très attaché
ouais,
au Temps des bouffons.
Ouais, ouais.
C'est sûr que... Tu sais, comme je suis attaché à chacun, Octobre, Élise Graton, j'ai tout un attachement. Mais Le Temps des bouffons est particulier parce que... J'étais petit, j'ai vécu la sortie, puis tu sais, c'était comme... T'es petit, tu comprends pas tout. Le monde achète des vidéocassettes à la porte, tu sais. Ma mère avait une boîte dans l'escalier, puis... Quand tu lui comprends plus tard tout son procédé, tu sais, c'est bien inventif de dire il ira pas dans aucun festival, il ira pas en salle. Fait que comment est-ce qu'on peut le faire distribuer pour que les gens puissent y avoir accès? pas besoin de la télé, tout le monde a un magnétoscope, fait que si mes cassettes se mettent à circuler, puis ça, ça, on le dit dans le reportage, mais tu sais, il y avait des inspirations, de choses qui se faisaient pendant la révolution iranienne, le monde se passait des cassettes audio qui se copiaient, en Algérie, c'était les transistors, fait que il a lancé cette façon-là de faire qui n'existait pas vraiment, puis ça a marché, puis à partir du moment que Nuovo, Franco Nuovo en a parlé, ben là, ça... Là, c'est ça qui est fou, tu sais, c'est que personne l'a vu. Il y a comme une centaine de copies en circulation, mais là, tout le monde veut le voir, puis ça, c'est comme une affaire virale qui crée une demande chez les gens, puis là, les gens se copient des cassettes. Je sais que, je pense, la CSN en avait fait une batch de copies... Fait que c'est ça.
T'sais, pour le public, le film a été tourné en 85. Il a été terminé de monter en 93, distribué en 93, 2 ans avant le deuxième référendum. Puis, c'était fait de manière très DIY, où est-ce que le film était sur une cassette VHS. Puis, les gens pouvaient se rendre à votre domicile, la rue Panay.
Ouais, c'est ça que je disais. Ouais,
pour je pense, 5 $.
Ouais, ouais.
Puis, avoir une copie. Puis, après ça, cette copie-là était échangée sous le manteau des bars d'un visionnage à l'autre.
Les gens se le copiaient, puis ils se le donnaient, puis c'est ça que je disais, à partir d'un moment, il y avait, je crois que c'est Roland Smith qui travaillait pour Renaud Bré, ils ont fait, lui il a pris ça en charge, il a fait mettre un thème de la régie, puis ça a été distribué dans les clubs vidéo, vendu dans les clubs vidéo.
Est-ce qu'il y a une partie de cette distribution-là, mettons pour le moins alternative, qui était dû parce que l'ONF s'est retiré du projet.
Mais l'ONF s'est retiré plus tôt que ça. Ouais,
encore
ouais,
plus tôt,
ouais,
OK.
Ouais. Parce que la chronologie exacte, je ne vais pas te dire en termes d'années, mais quand il est revenu avec le film, il a commencé à faire du montage, puis l'ONF a dit, avec son idée de commentaire, il n'était pas intéressé, il dit « on ne peut pas se mêler à ça, fait que tu es libre avec ton film ». Et là, il connaissait les techniciens qui, comme il dit, il s'est rentré par la ruelle quasiment... faire du montage, puis là, il est arrivé le party, il est arrivé d'autres choses, puis c'est des années plus tard, il y avait une vieille table de montage dans l'appartement, Moviola, qui était... Les bandes de pellicule originales ont été perdues dans les voûtes de l'ONF.
OK.
Perdues, en tout cas. Bref, ils ont retrouvé une copie, ils ont un intent négatif qui a été retransféré en vidéo, mon père l'a monté, puis... C'est maman qui l'a convaincu de faire le commentaire lui-même, en fait. Ouais. Parce que il y avait déjà sur Speak White, qui est un, pour les gens qui ne savent pas, c'est un autre court-métrage que mon père avait fait avec Poulain. Il avait pris la voix d'une comédienne. Mais c'est peut-être par inexpérience ou par manque de confiance, tu te laisses aller à ça. Puis là, cette fois-ci, maman dit, c'est ton film, c'est ton projet, ça va être avec ta voix, ça va être bon, vas-y. Puis,
le film est habité par sa voix,
ça marche, son intonation, ça marche au bout. Pour le tournage, c'est un extrait qu'on n'a pas gardé, que j'ai pas gardé au montage, mais on a retrouvé une cassette de test de narration qui faisait... Donc, on l'entend interagir avec la technicienne. Puis c'est pour les gens qui connaissent bien, tu l'as vu beaucoup de fois, ce que j'ai compris. Tu remarques quelques différences dans le texte, mais c'est des micro-différences là, cosmétiques. Puis aussi dans le ton ou le si on veut, le... où il met ses pauses, mais c'est bien
intéressant.
Pour nous, c'était drôle, c'était vraiment intéressant d'entendre ça, tu sais, comme document d'archive.
Puis, le film aujourd'hui est disponible sur YouTube, sur la chaîne du Monde Diplomatique, ce qui est à la fois étonnant et qui ne l'est pas vraiment en même temps. Mais c'est sûrement l'un des rares films en ligne libre de droit qui fait du sens. Parce que, justement, sur la cassette de l'époque, on pouvait lire « Ce film appartient à tout le monde. Il doit circuler comme une bouteille à la mer. » Volez-le, copiez-le, distribuez-le. Est-ce que pour toi, cette diffusion gratuite sur Internet, c'est en cohérence avec l'intention initiale?
Oui, complètement, complètement. Ouais. Je pense que mon père aurait préféré que ses films soient vus plutôt que tu sais, d'autres films qui se retrouvent sur YouTube sans avoir les droits. Ce que le créateur reçoit en termes de redevances, c'est tellement pas grand-chose. Puis mon père, je pense, aurait juste préféré que le monde y voit ces œuvres-là qui ont été faites pour ça. Puis le Monde Diplomatique, c'est parce que, tu sais, il avait déjà été mis sur YouTube précédemment. Mais tu sais...
Mais c'était une chaîne...
Kidam qui l'avait mis, sa chaîne a fermé. Peut-être 10 ans plus tard, le film est disparu, mais quelqu'un l'avait remis. Puis le Monde Diplomatique, ils l'ont mis sur leur chaîne pour... au moment des Gilets jaunes, fait que... C'est ça qu'il fait. Mais tu sais, je pense qu'il va, s'il disparaissait là, il reviendrait ailleurs. Il va toujours y avoir.
Puis, on parlait un peu plus tôt de la voix hors champ de ton père. Dans ton reportage, on apprend qu'il y a une copie, ben une version espagnole.
Ouais.
Puis est-ce qu'il y avait d'autres langues aussi que ton père il a fait? Comment on va l'essayer dans d'autres langues, même en anglais?
Il y a une version sous-titrée anglaise, okay. Mais la version espagnole est vraiment particulière là, parce que, avec son accent, tu sais, mon père avait été en Amérique centrale quand il était jeune, sur le pouce, fait qu'il y a comme un espagnol. Un accent un peu de la rue. Là. Je pourrais pas dire exactement de quel pays. Là. C'est proche de l'accent mexicain, mais en même temps, pas tout à fait. Puis probablement que des gens qui l'ont aidé à corriger le texte devaient être chiliens ou argentins. Fait que, c'est vraiment hot d'entendre cette version. Moi, j'aime beaucoup. Là.
Puis, en retraçant l'histoire du temps des bouffons, est-ce que tu as découvert des informations que tu connaissais pas auparavant?
Je pense que c'est plus une affaire de se rafraîchir la mémoire. Ma mère, elle connaît le dossier. Mm-hmm. Puis, il y a certains trucs, je pense, peut-être que j'avais jamais vu physiquement, mettons, la lettre de l'UQAM, que, pour mettre en contexte. Ils avaient fait croire aux gars des relations publiques du Beaver Club qu'ils étaient une équipe de l'UQAM qui faisait un tournage pour un cours sur les fourrures. Et donc, il y avait une lettre écrite par mon père, puis il envoyait ma mère plus jeune, plus belle, le négocier. Puis j'avais jamais vu, je pense, le papier. Ça m'a fait tout drôle de le lire aussi. C'est peut-être une des seules affaires. Puis c'est sûr que je te disais la cassette VHS avec les tests. Mais d'informations, je pense pas que j'ai appris. Mais là, peut-être je dis, peut-être je me mélange, mais je pense pas que j'ai appris grand-chose.
Puis, 30 ans plus tard, parce que là, c'est ça qu'on souligne, comment est-ce que tu trouves que le propos a vieilli? Comment est-ce qu'il serait accueilli par des générations, on va dire, nées après l'an 2000?
Ben, ce serait à eux de le dire. Hein. Mm-hmm. Moi, je l'ai projeté quelques fois. Il se fait encore demander. Tu sais, c'est drôle, il l'a fait en marge de tout le système, mais c'est son film qui a le plus voyagé. C'est son film qui a fait le plus de festivals, qui a eu le plus de prix. Il a gagné au Pays Basque, il a gagné à Clermont-Ferrand. Encore aujourd'hui, je te dirais, je pense qu'il est allé, il a été invité en Allemagne il y a peut-être 3 ans. Il a été invité, il a été intégré à un show de Robert Lepage en Russie. Puis moi, je l'ai montré aussi à des gens en francisation. Je faisais une espèce de conférence sur l'histoire du cinéma documentaire. Puis c'est toujours, ce qui me fascine, c'est que c'est toujours accueilli, en fait, tout le monde peut comprendre parce que chaque pays d'origine des gens, il y a une élite
une classe dirigeante
ouais. qui accapare les ressources, puis tout le monde est capable de comprendre ça. Tu sais, moi, j'ai eu des commentaires justement, des trucs de francisation. Le monde, et c'est pareil chez moi, c'est pareil au Brésil, c'est pareil.
Ouais, c'est universel à mesure.
Au niveau de la génération, je peux pas te dire, mais au niveau universel, tu sais, c'est toujours compris le temps des bouffons.
Puis, est-ce que tu crois que ce film-là pourrait être fait aujourd'hui?
Dans quel sens?
Dans le sens de sa charge. Soit politique, mais aussi, on va dire, lyrique. Est-ce que ça passerait aujourd'hui? Même si ça n'a pas nécessairement si bien passé que ça dans les années 90.
Mais
j'ai l'impression que c'est un genre d'œuvre qui est mis à l'index aujourd'hui, qui serait mis à l'index.
Mais peut-être que, premièrement, les gens sont peut-être plus frileux avec des controverses, mais tu sais, il faut... De toute façon, les cinéastes aujourd'hui, c'est drôle en lisant le livre de Sylvain Garel, là, qui est juste ici sur le FLQ au cinéma, tu remarques qu'il y a comme une désaffection des cinéastes pour les thèmes politiques, sociopolitiques, en tout cas. Puis je pense que je sais pas qui aurait... tu sais, un film qui aurait pas pu se faire dans les réseaux de financement parce que des institutions gouvernementales donnent pas d'argent à des films comme ça. Puis c'est, de leur point de vue, c'est compréhensible aussi. Fait qu'il faut avoir du guts pour de dire je vais le faire, mais je vais le faire sur mon bras. Mais n'importe qui, en fait, il y en a encore du monde qui font des films sur leur bras puis qui n'ont pas envie de se plier ou d'essayer de rentrer dans une cause qui exige les institutions. Mais j'ai pas encore vu quelqu'un faire quelque chose d'équivalent. T'sais.
Puis, tu disais que c'est un film qui a beaucoup voyagé, qui a gagné des prix en Europe. Il a même gagné un prix à Sudbury, au Canada anglais. Puis pour reprendre les paroles de ton père, qui est en voix off, c'est toute l'histoire du Québec en raccourci, toute la réalité du Québec en résumé, clair, net pour une fois, comme grossi à la loupe. Mais pourtant, c'est pas un film qui est si connu au Québec, pourtant venant d'un réalisateur qui est assez connu. pourquoi est-ce que tu dirais que Le Temps des bouffons reste encore une œuvre un peu secrète?
Ben, c'est une bonne question, ça, parce que je sais pas, moi, ce qui... J'ai l'impression que les gens qui ont connu la sortie, les gens plus vieux, tout le monde connaît pas mal Le Temps des bouffons. Peut-être que c'est une affaire de génération où si t'as pas de... Faut avoir un intérêt pour fouiller dans le cinéma québécois aussi. Des fois, il y a plein de films qu'on n'a jamais vus, que j'ai jamais vus, que t'as jamais vus, que l'ONF a fait, que toutes sortes de... Faut fouiller, faut être passionné, puis il faut aussi les trouver, ces films-là. Le Temps des bouffons, si t'en as jamais entendu parler, ben peut-être que t'es plus porté à regarder des séries Netflix américaines ou coréennes, puis tu fouilles pas dans ce qui a été fait précédemment dans le cinéma québécois, je sais pas.
Puis peut-être dernière question, on dit que chaque film est composé d'amour, sujet de débat certes, aux réponses variables, mais pour toi, Jules, l'amour dans Le Temps des bouffons, elle s'immisce où?
Wow, t'en as des bonnes aujourd'hui.
c'est ma dernière.
Ouais. Mais je pense que c'est probablement de deux côtés, probablement une espèce d'amour de son peuple et d'amour de la justice, j'imagine. Ça, c'est peut-être la réponse plus poétique. Puis bon, mais le fait que mon père et ma mère ont collaboré aussi... à ce film-là, comme sur le steak, un peu ma mère a peut-être pris une présence plus forte parce qu'ils l'ont co-réalisé sur le film Le Steak, mais ils ont quand même... tu sais, je trouve ça beau. Moi, quand ma mère a dit « Ah, c'est moi qui a botté le cul pour qu'il fasse la narration », tu sais, sans ça, ça serait pas le même film, puis je trouve ça touchant.
Parfait, écoute. C'est tout pour nous. Merci beaucoup, Jules. Si cette discussion vous a plu, n'hésitez pas à partager cet épisode et à vous abonner à notre chaîne. C'est Jean Bourbeau en compagnie de Jules Falardeau pour Urbania. Retrouvez-nous la semaine prochaine. Puis, comme conclusion, on peut citer le maître de cérémonie au Beaver Club. Là. We are magnificent people.
Applaudissons-nous.
Bravo, bravo, applaudissons-nous. Merci beaucoup.
Ouais, merci à toi.
C'était un balado Urbania. Abonnez-vous donc.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.